Dr. Dave Mathewson, Littérature du Nouveau Testament. Conférence 31, Une pierre. Symbole copyright 2024 Dave Mathewson et Ted Hildebrandt. Il s'agit du Dr. Dave Mathewson dans Histoire et Littérature du Nouveau Testament, Conférence 31 sur une pierre. Est-ce une querelle de Pentacat ici?
Ouais.
Avons-nous un quiz? Ce ne serait pas un quiz pop si je vous le disais maintenant, n'est-ce pas? Les avez-vous déjà qualifiés de quiz pop?
Quoi?
Les avez-vous déjà qualifiés de quiz pop? Je suppose que non, n'est-ce pas? Est-ce que je vous ferai un quiz un mercredi après les vacances de Pâques? Vous ne le feriez pas? Très bien, commençons par la prière. Très bien. Père, merci pour la courte pause, le repos et le temps consacré à réfléchir à la résurrection de votre Fils et à son sens et à sa signification pour nos vies personnelles et en tant que votre peuple collectivement. Père, maintenant que nous nous tournons vers ces documents qui témoignent de ton Fils ressuscité et de notre Seigneur et Sauveur, je prie pour que tu nous donnes sagesse et perspicacité, que tu nous donnes de la patience pendant que nous écoutons des documents qui, à certains égards, sont très étrangers pour nous et je prie pour que nous apprenions à le lire à travers les yeux et à l'entendre à travers les oreilles de ceux qui l'ont entendu et lu pour la première fois et en même temps soit. Mieux équipé pour comprendre sa signification continue pour nous en tant que votre peuple aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous prions, Amen. Très bien, maintenant, il n'y a pas de quiz, alors asseyez-vous, respirez profondément et détendez-vous. Très bien, juste une annonce sur ce qui se passera dans les prochaines semaines. Il y a encore un examen à passer avant l'examen final. L'examen final est complet pour les quatre examens, mais la bonne nouvelle est qu'il ne couvre que le matériel trouvé dans les quatre premiers examens. Il n'y aura pas de nouveau matériel. Donc, s'il y a des choses que j'ai testées dans les évangiles ou des choses que je ne vous ai pas testées dans les évangiles, cela n'apparaîtra pas dans la finale. La finale est complète sur la matière des quatre premiers examens. Nous en parlerons donc davantage. Mais vous avez un autre examen de section, le numéro 4, qui couvre Hébreux jusqu'à l'Apocalypse. Cela aura lieu lundi, soit le lundi ou le mercredi de la semaine précédant les finales. Ce sera probablement lundi, je pense. Maintenant, l'autre chose aussi, et cela va vraiment vous contrarier et vous décevoir, c'est que je vais manquer toute la semaine avant les examens, donc il n'y aura pas de cours sauf n'importe quel jour, qui est probablement lundi, c'est le 9 mai. Le lundi 9 mai aura probablement lieu l'examen de section 4 sur Hébreux jusqu'à l'Apocalypse. Et j'aurai un assistant qui surveillera, vous fera passer et surveillera cet examen, parce que je serai parti. Mon fils est diplômé de l'Université chrétienne du Colorado et se marie ensuite le week-end suivant, nous resterons donc dehors toute la semaine. Je suis donc vraiment désolé que vous deviez manquer le Nouveau Testament pendant une semaine entière. Mais ensuite, je serai de retour pour la semaine des examens finaux et quel que soit le créneau qui nous est désigné pour la finale, c'est quand cela aura lieu. Cela signifie que la semaine prochaine, écoutez bien, la semaine prochaine, il y aura une autre, la quatrième et dernière séance de révision des crédits supplémentaires qui couvrira le matériel et préparera l'examen numéro 4, qui encore une fois aura lieu lundi, on dirait que ça va être le lundi 9. C'est donc une sorte d'avertissement quant à la direction que nous prenons. Ainsi, aujourd'hui et vendredi, puis toute la semaine prochaine, puis la semaine suivante, aucun cours, sauf le lundi, ne comportera l'examen numéro 4 sur Hébreux et l'Apocalypse. Mais alors pas de cours le mercredi ou le vendredi, mais évidemment pas de cours le vendredi, mais ensuite l'examen final sera la prochaine chose, le prochain événement capital après cela. Y aura-t-il une séance de révision pour la finale? Y aura-t-il une séance de révision pour la finale? Probablement là-bas, oui, je peux probablement également proposer une séance supplémentaire de révision des crédits pour l'examen final. Je vais devoir réfléchir à cela sur le plan logistique pour savoir qui pourrait faire cela. D'accord, d'accord. Combien valent les séances supplémentaires d'évaluation du crédit? Je n'ai pas encore décidé, mais encore une fois, cela vaudra la peine d'y assister. Comme une note de quiz pour la finale. Une note de quiz, oui. Je ne me souviens pas, je vais devoir m'asseoir et voir ce que j'ai fait dans le passé. Je ne me souviens plus du pourcentage, mais oui, ce sera bien.
Très bien, ouais.
Avons-nous accès au test que nous avons passé?
Accès au test que vous avez passé auparavant,
oui, vous pouvez les récupérer.
Et encore une fois, certains d'entre vous en ont conservé des copies, c'est très bien.
Si vous souhaitez obtenir une copie de l'examen, la partie question à choix multiple, vous pouvez le faire.
Encore une fois, je ne serai pas là l'année prochaine, donc je me fiche de ce que vous en ferez.
Je doute que la personne qui me remplace les utilise.
Donc, en réalité, ils ne serviront à personne.
Donc, si vous souhaitez les récupérer après avoir passé le quatrième examen, si vous souhaitez les récupérer pour étudier, ou à tout moment avant, c'est très bien.
Et nous parlerons un peu plus de la finale avant de partir.
Et encore une fois, il y aura une séance de révision, espérons-le, également pour la finale.
Bien, si je peux l'intégrer, j'espère que je pourrai.
Très bien, ce que je veux faire, c'est passer à la dernière section de courtes lettres menant au dernier livre du Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse.
Et je veux ralentir un peu et leur donner, comme nous l'avons fait avec James, leur donner un peu plus de temps parce que généralement ce qui se passe, comme je l'ai dit deux choses, numéro 1, généralement au moment où le semestre arrive pour conclure, la plupart des cours sur le Nouveau Testament ne sont parfois pas allés très loin dans les lettres de Paul. Vous vous enlisez dans des livres comme Romains, Galates, Éphésiens, etc., et 1 Corinthiens, et vous pouvez comprendre pourquoi, pour de très bonnes raisons.
Et deuxièmement, encore une fois, ces livres, parce qu'ils se rapprochent de la fin du Nouveau Testament et parce qu'ils semblent tellement éclipsés par les enseignements et les lettres de Paul, sont souvent traités très brièvement.
Donc, je vais inverser cela et peut-être, encore une fois, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais peut-être passerons-nous juste un peu plus de temps avec certaines de ces lettres comme Jacques, Hébreux, Jacques, 1 et 2 Pierre, et surtout 1 Jean, 2 et 3 Jean, nous les examinerons très, très brièvement, mais y consacrerons un peu de temps.
Encore une fois, parce qu'ils sont nichés entre l'Apocalypse et les lettres de Paul et qu'ils ne reçoivent souvent pas beaucoup d'attention.
Nous allons donc leur accorder peut-être juste un peu plus d'attention qu'ils n'en reçoivent habituellement.
Cela dit, je veux passer à la lettre suivante du Nouveau Testament.
Nous allons donc ouvrir un autre courrier de l'Église primitive et en extraire une lettre que nous avons intitulée une pierre.
Maintenant, ce qui est intéressant à propos de cette lettre, à première vue, c'est que la lettre est nommée, un peu comme James, la lettre est nommée selon, à bientôt les gars, la lettre est nommée selon la personne qui l'a écrite, pas selon les destinataires de la lettre.
Nous sommes habitués à cela avec les lettres de Paul.
Toutes les lettres sont nommées selon les personnes auxquelles elles sont adressées.
Mais Jacques, Pierre et 1, 2 et 3 Jean seront nommés ou étiquetés selon la personne qui a réellement écrit la lettre.
Maintenant, la première chose dont il faut parler avec le livre de une pierre est de comprendre un peu les circonstances qui produisent la lettre.
Une pierre, comme Jacques, semble être écrit, en d'autres termes, il semble y avoir un modèle commun, au moins avec certaines lettres, et c'est pour un leader chrétien éminent, tel que Jacques, qui était un leader dans l'Église chrétienne de Jérusalem, comme Jacques ou Pierre, pour écrire une lettre aux chrétiens largement répandus ou dispersés sur une vaste zone géographique.
Ainsi, si Pierre commence, Pierre commence Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux exilés de la dispersion du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie.
Donc, vous voyez le même schéma que vous voyez chez James.
Une pierre et Jacques partagent ce trait caractéristique d'un leader chrétien bien connu dans l'Église qui s'adresse désormais à un groupe très large de lecteurs répartis sur une vaste zone géographique.
Nous avons vu que Jacques s'adressait aux Juifs dispersés, et maintenant une pierre s'adresse aux chrétiens qui sont également dispersés sur une vaste zone géographique.
Il les appelle des exilés.
Mais contrairement à Jacques, une pierre ne s'adresse pas aux chrétiens juifs mais s'adresse probablement aux chrétiens païens.
Bien que nous le verrons, l'une des choses que fait Pierre est de prendre un langage de l'Ancien Testament qui s'applique à l'Israël de l'Ancien Testament et de l'appliquer maintenant à l'Église.
Ainsi, il décrira ses lecteurs comme ceux qui sont choisis et élus, ce qui était le langage utilisé par Israël.
Il les qualifiera de personnes saintes.
Il les désignera comme une nation sainte et un sacerdoce royal, retirant tout ce langage de l'Ancien Testament et utilisant maintenant un langage qui s'appliquait ethniquement à la nation d'Israël, l'appliquant maintenant à ce groupe transculturel appelé l'Église qui se compose à la fois de juifs et gentils. C'est donc une chose à laquelle vous devez vous habituer lorsque vous lisez l'Ancien Testament. Vous le trouverez fréquemment. Le langage de l'Ancien Testament utilisé pour désigner Israël est maintenant appliqué dans un nouveau contexte pour désigner l'Église qui se compose désormais à la fois de juifs et de gentils. Maintenant, deux autres choses sur les circonstances de 1 Pierre. Tout d'abord, au chapitre 5 au verset 9, l'auteur dit « Résistez, soyez fermes dans votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs du monde entier subissent le même genre de souffrance ». Ceci est très important car on a souvent pensé que 1 Pierre, ainsi que certains autres livres du Nouveau Testament, s'adressaient à des chrétiens qui subissaient une sorte de persécution à l'échelle de l'empereur ou officiellement sanctionnés. Ainsi, nous avons souvent cette idée que littéralement chaque ville de l'Empire romain avait des légions de soldats marchant dans les rues et ils allaient de maison en maison traînant les chrétiens dans les rues et les battant ou les décapitant ou les traînant jusqu'à l'arène. Être dévoré par des animaux sauvages ou quelque chose comme ça. Cela n'était probablement pas très souvent vrai au 1er siècle et ce n'était certainement pas vrai pour 1 Pierre. 1 Pierre semble aborder une situation dans laquelle les chrétiens souffrent principalement du genre de choses, comme le suggère le verset que je viens de lire, chapitre 5, verset 9, qui était courante pour les chrétiens en général. Ainsi, les chrétiens auraient subi des pressions et des souffrances plus officieuses et locales. La plupart des souffrances qu'ils auraient subies ne provenaient pas du gouvernement romain ou des soldats romains marchant dans les rues, les traînant dehors et les battant ou quelque chose comme ça. Que ? Mais la plupart des souffrances auraient été au niveau local et la pression locale pour se conformer, le genre d'ostracisme, le genre de ridicule, et peut-être même la douleur physique qui aurait été infligée aux chrétiens, ce qui aurait été le cas pour les chrétiens vivant dans de nombreux pays. Emplacement dans tout l'Empire romain. Ainsi, la situation de 1 Pierre n'est probablement pas une persécution officielle à l'échelle de l'empereur sanctionnée par l'empereur envoyant des soldats romains pour causer toutes sortes de problèmes aux chrétiens, mais encore une fois simplement le genre de persécution, d'ostracisme et de ridicule qui aurait eu lieu à l'époque. Au niveau local et plus sporadiquement répandu dans tout l'Empire romain. De plus, un autre indice que nous obtenons sur les circonstances de la lettre se trouve au verset 13 du chapitre 5. Pierre termine la lettre en disant, « Votre église sûre à Babylone, choisie avec vous, vous salue, tout comme mon fils Marc. » Babylone semble à cette époque être devenu un mot de code pour la ville de Rome. Apparemment, Pierre écrit cette lettre depuis Rome qu'il appelle Babylone. Plus tard, nous l'espérons, nous examinerons une section du livre de l'Apocalypse qui identifie clairement Rome, la ville de Rome, comme Babylone, en utilisant à nouveau un terme de l'Ancien Testament. Maintenant, ce terme est appliqué à la ville de Rome au 1er siècle et Pierre semble s'en inspirer. Donc, pour résumer tout cela, Pierre semble alors être l'un des apôtres de Jésus qui vit à Rome et semble maintenant écrire une lettre aux chrétiens qui subissent simplement le même genre d'ostracisme, de ridicule et de souffrance que les chrétiens auraient connu régulièrement. Mais sporadiquement dans de grandes parties de l'Empire romain de l'époque. Notez également à quel point ils sont répandus. Au chapitre 1 et au verset 1, nous venons de lire aux exilés de la dispersion du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie, ces cinq noms étaient tous des provinces de Rome. Rappelez-vous, lors de la première semaine de cours, bien sûr, vous vous en souvenez, mais nous avons parlé un peu de l'Empire romain et du gouvernement romain et l'une des façons dont ils géraient leur grand empire était de le diviser en provinces et ces cinq en nommant l'un d'entre eux que vous connaissez déjà, Galatie, nous avons suggéré que le livre des Galates a probablement été écrit pour un groupe d'églises dans la partie sud de la province romaine de Galatie. Ainsi, ces chrétiens se sont ensuite répartis dans toute la province romaine de Galatie, à diverses époques, souffrant sporadiquement au niveau local et non officiel, subissant diverses sortes de persécutions et de ridicules, ainsi qu'un ostracisme social et physique de la part de leurs voisins païens. Et donc maintenant, pour mettre cela ensemble, Peter écrit, en gros, qu'il écrit une lettre pour les encourager à rester fermes dans la vie de leur foi dans un environnement hostile dans le contexte du type de souffrance, aussi officieuse soit-elle et aussi variée et étendue. Ce n'est que les encourager à maintenir leur fermeté en Jésus-Christ dans ce contexte et au milieu de ce genre d'environnement. Le but de la lettre, dans un sens, le but de la lettre peut être résumé en notant un thème qui apparaît dans Pierre dans un nombre de fois disproportionné par rapport à son espace. Par exemple, la forme verbale souffrir, la forme verbale que Pierre utilise pour souffrir, 12 de ses 41 occurrences, la forme verbale apparaît 41 fois comme verbe dans tout le Nouveau Testament, 12 de ses instances apparaissent dans une pierre. Et encore une fois, c'est significatif, aussi court et petit livre que soit une pierre par rapport à l'intégralité du Nouveau Testament, cela représente un grand nombre d'occurrences. De plus, la forme nominale de ce même mot, cette même racine du mot souffrance que Pierre utilise, la forme nominale apparaît un quart du temps qui apparaît dans le Nouveau Testament, un quart de ses occurrences, que est 4 sur 16, apparaît dans une pierre. Ainsi, cet ensemble d'usages de ce terme lié à la souffrance suggère quelque chose sur le but de Peter et ce qu'il essaie de faire dans son thème principal. Et encore une fois, je pense que l'une des choses qu'il essaie d'aborder est d'encourager les chrétiens et de leur apprendre comment réagir face aux différents types de souffrances qu'ils subissent, en particulier de la part d'une société païenne. Même si, encore une fois, la situation n'est pas encore chauffée au point d'une persécution officielle à l'échelle de l'empereur, où les chrétiens sont entraînés dans l'arène et des choses comme ça. Nous n'en sommes pas encore là, mais les occurrences de ces cas sont apparemment suffisamment significatives pour que Pierre voie la nécessité d'écrire aux chrétiens pour leur expliquer comment gérer cela. Maintenant, à cause de cela, Pierre peut être divisé assez facilement en deux sections qui se rapportent toutes deux à ce thème de la souffrance. Dans le premier, dans les trois premiers chapitres, Pierre fait effectivement appel à son lecteur. C'est intéressant. Il ne les appelle pas immédiatement à simplement endurer la souffrance et à être capable de la supporter, mais au lieu de cela, il est intriguant de constater que, non seulement dans les trois premiers chapitres, mais aussi dans tout le livre, une partie de l'instruction de Pierre jusqu'à la façon dont ils doivent gérer la souffrance et de maintenir une conduite chrétienne appropriée au milieu de cette souffrance, et cela signifie principalement qu'ils mèneront une vie sainte. C'est ici que vous trouvez la citation de l'Ancien Testament, « Soyez saints comme je suis saint ». C'est ici que nous examinerons ce texte dans un instant, mais l'une des choses que fait Pierre, au chapitre 2, c'est là que Pierre décrit l'Église comme un temple saint. Ce que fait Pierre, c'est leur dire qu'ils doivent répondre à cette hostilité par la pureté, mais ils le font en créant une communauté. Pierre ne les appelle pas à le faire par eux-mêmes, mais il les appelle plutôt à créer une communauté, un temple saint, et nous examinerons ce thème dans un instant. Ainsi, la manière dont ils doivent maintenir cette conduite appropriée est la seule façon pour eux de pouvoir finalement résister à la tentative de céder à cette pression et à la souffrance, et de former et de créer une sainte communauté, un temple, que Pierre appelle l'Église. Mais deuxièmement, dans les chapitres 4 et 5, c'est là que Pierre entre plus en détail en appelant ses lecteurs à persévérer, et l'une des principales choses qu'il fait est d'utiliser le Christ comme exemple de quelqu'un qui n'a pas riposté. Ainsi, il les appelle à persévérer en maintenant leur témoignage chrétien en ne ripostant pas, et c'est là que Pierre, à maintes reprises, il utilise l'exemple de Jésus comme celui qui n'a pas riposté. Il prend l'exemple d'Isaïe chapitre 53, le serviteur souffrant que l'on cite souvent à Pâques. Pierre y fait allusion, tout cela pour démontrer que ses lecteurs, comme le Christ, devraient s'abstenir de riposter et de se venger, même s'ils peuvent souffrir injustement aux mains, encore une fois, de cette persécution locale sporadique, de cette pression et de cet ostracisme auxquels ils sont confrontés et ridiculisés. C'est donc un peu comme ça que Peter est configuré. Il peut, à certains égards, être divisé entre ces deux sections. Mais tout comme le livre des Hébreux, Pierre alterne entre son exposé, ce qu'il dit du Christ et ce qu'il dit de l'Église, et l'exhortation sur la manière dont ils doivent répondre. Nous avons vu que Hébreux faisait cela. Il alternait entre l'exposition, l'indicatif, puis l'avertissement, ou l'impératif ou les commandes. Peter fait quelque chose de similaire. Il fait des allers-retours entre son exposé et son exhortation, mais cela peut en grande partie être divisé en ces deux sections. Mais encore une fois, il est intéressant de voir que le cœur de l'instruction de Pierre lorsqu'il s'adresse aux chrétiens pour qu'ils résistent à la souffrance, n'est pas simplement une sorte d'action réflexive ou d'action passive ou une sorte de creusement et de préparation pour le long terme. Les instructions de Pierre concernent tout le maintien d'un témoignage et d'un contexte chrétien approprié, une conduite chrétienne appropriée, le maintien de la sainteté, la création d'une communauté et le refus de représailles. Donc, je trouve les instructions de Peter concernant la souffrance plutôt intrigantes, il ne leur dit pas seulement de persévérer et d'endurer, mais c'est plus actif. Ils doivent maintenir leur témoignage et maintenir une conduite chrétienne appropriée et ne pas riposter et rechercher la pureté même au milieu de ce à quoi ils sont confrontés. Or, une partie importante de l'enseignement de 1 Pierre est ce qu'il dit à propos de l'Église. Nous en trouvons la description la plus longue dans 1 Pierre chapitre 2, où il dit, « Tu viens à lui, pierre vivante, bien que rejetée par les mortels, mais pourtant choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Et comme des pierres vivantes, laissez-vous édifier une maison spirituelle, pour devenir un saint sacerdoce, pour offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Car il est écrit dans l'Écriture, « Voyez, je pose en Sion une pierre, un quart de pierre, choisie et précieuse, et quiconque croit en lui ne sera pas confus. Pour celui qui croit, pour ceux d'entre vous qui croient qu'il est précieux, ou cela devrait mieux être traduit, il y a de l'honneur. Pour ceux d'entre vous qui croient, il y a de l'honneur. Mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la tête de la pierre angulaire. » Puis le verset 9, « Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, le peuple de Dieu, afin que vous puissiez proclamer les actes puissants de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa lumière. » Maintenant, ce sur quoi je veux attirer l'attention, c'est l'utilisation par Pierre du langage de l'Ancien Testament en comparant l'Église non seulement à un bâtiment mais aussi à un temple. C'était très courant au début du christianisme. En fait, il est intéressant de noter que cela était très courant dans un autre mouvement juif, la communauté de Qumran. Rappelez-vous que nous avons parlé des Esséniens qui auraient pu avoir leur slogan « Retirons-nous ». Les Esséniens sont partis dans le désert et ont formé leur propre communauté, la communauté de Qumran a formé sa propre communauté. Et cela s'expliquait en partie par le fait qu'ils se comprenaient eux-mêmes parce que cela les contrariait et qu'ils avaient rejeté le temple physique de Jérusalem. Ils comprenaient que leur propre communauté était, dans un sens, un temple spirituel pendant la période intérimaire jusqu'à ce que Dieu vienne restaurer et reconstruire le temple physique. Donc c'est intéressant. Dans la littérature de Qumran, vous lisez ce langage sur leur être, comparant métaphoriquement les membres de la communauté à des pierres et comparant la communauté à un temple et à une maison, à un bâtiment. Pierre et les premiers chrétiens font la même chose. Nous avons vu que dans les lettres de Paul, il comparait fréquemment l'Église à un temple et les membres aux pierres qui composaient le temple. Et maintenant, Peter fait la même chose. Et ce qui se passe là-dedans, c'est dans le temple de l'Ancien Testament. Le temple de l'Ancien Testament était emblématique de la présence de Dieu avec son peuple. Le temple de l'Ancien Testament symbolisait la demeure même de Dieu et sa présence avec son peuple d'alliance, Israël. Lorsque le temple a été détruit parce qu'Israël avait péché et que Dieu a amené l'Assyrie et Babylone pour les entraîner en exil, le temple a été détruit et les prophètes, tels que Ésaïe, Ézéchiel, etc., anticipent un jour où Dieu reconstruira et restaurera un jour le temple comme lieu où il habiterait parmi son peuple. Il est intéressant de noter que le Nouveau Testament voit ensuite le temple, ainsi que les promesses et les prédictions d'un temple reconstruit, s'accomplir finalement en Jésus et son Église, ses disciples. C'est pourquoi Pierre, Paul et d'autres ont pris les images physiques du temple de l'Ancien Testament et les appliquent maintenant aux gens eux-mêmes, à l'Église. Aujourd'hui, l'Église est le véritable temple de Dieu. Désormais, l'Église est le lieu où Dieu demeure avec son peuple, non plus à travers une structure physique, ni à travers un bâtiment physique. C'est pourquoi, en guise de remarque, c'est pourquoi personnellement, je ne pense pas que le temple physique sera jamais reconstruit à Jérusalem, ou si c'est le cas, cela n'a rien à voir avec la prophétie, car le Nouveau Testament est clair que le temple reconstruit est maintenant, le temple reconstruit que les prophètes avaient prédit, s'accomplit maintenant en Jésus et dans l'Église, et non un autre temple physiquement reconstruit. Ainsi, le temple a déjà été reconstruit, il a déjà été établi, ou mieux encore, il est en train d'être reconstruit et établi par Christ et l'Église qu'il est en train de construire. Ainsi Pierre parle des chrétiens comme de pierres vivantes construites pour former cette demeure spirituelle, ce lieu où Dieu demeure. Ainsi, le véritable lieu de la présence de Dieu n'est plus dans le temple physique de l'Ancien Testament, ni dans aucun autre bâtiment physique, mais désormais dans le peuple de Dieu lui-même. C'est pourquoi Pierre peut appeler l'Église cet édifice composé de pierres vivantes, le temple même de Dieu. Le but ou la fonction de ceci est double. Premièrement, en rappelant aux lecteurs qu'ils sont un temple saint, cela les motivera à poursuivre le genre de vie que Pierre souhaite qu'ils mènent. N'oubliez pas qu'une partie de la stratégie de Pierre ne consiste pas seulement à les amener à résister à la souffrance, mais à le faire en maintenant la pureté et en maintenant leur témoignage dans une conduite chrétienne appropriée. Cela leur rappelle en partie qu'ils constituent réellement ce temple en accomplissement de l'Ancien Testament. S'ils sont ce temple pur où Dieu habite, alors ils doivent le démontrer par la façon dont ils vivent, en particulier au milieu de l'hostilité et de l'environnement hostile dans lequel ils se trouvent. Mais deuxièmement, je pense qu'il peut y avoir un autre problème aussi, et c'est pour ceux qui souffrent de dislocation, pour ceux qui sont exilés, ils sont décrits comme des exilés, et qui souffrent de dislocation, de persécution et de ridicule, c'est de les appeler ce temple. Et cette maison constituée de tous ses membres, ce serait une manière d'affirmer socialement leur identité. En d'autres termes, s'ils ont besoin d'un endroit où aller, s'ils n'ont nulle part où appartenir, si le monde est un endroit hostile, ils doivent avoir un sentiment d'appartenance. Ils ont besoin d'avoir quelque chose à quoi appartenir. Et donc, dit Peter, oui. Vous faites partie de ce temple saint qui est continuellement construit, et chaque membre individuel est une pierre de construction. Donc à la fois une motivation pour la pureté et la sainteté au milieu de la souffrance, mais aussi un sentiment d'appartenance et d'identité pour ceux qui se retrouvent dispersés et se retrouvent dans un monde et un environnement hostile. Or, l'un des passages les plus troublants de tout le Nouveau Testament se trouve probablement dans une pierre. Et cela se trouve au chapitre 3, à partir du verset 18. Et laissez-moi vous le lire. Car Christ a également souffert pour le péché, donc ce n'est pas inhabituel, c'est le thème principal de Pierre, c'est-à-dire qu'il démontre que tout comme Christ a souffert, mais sans représailles, ses disciples devraient aussi le faire. Ainsi, dit-il, car Christ aussi a souffert une fois pour toutes pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de vous amener à Dieu. Il fut mis à mort dans la chair, mais rendu vivant dans l'esprit, dans lequel il alla aussi prêcher aux esprits qui étaient en prison. Et c'est intéressant. Qui autrefois n'a pas obéi, quand Dieu attendait patiemment au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle quelques personnes, soit 8 personnes, furent sauvées grâce à l'eau. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Jésus allant vers les esprits en prison et leur prêchant? Et puis il est dit, ces esprits étaient ceux qui étaient présents le jour où Noé a construit l'arche. D'où Pierre tire-t-il cette histoire du Christ allant à ces esprits en prison? Qui sont ces esprits en prison à qui Jésus prêche? Que leur prêche-t-il? Où sont-ils en prison? Quand Jésus est-il allé là-bas et a-t-il fait cela? Et qu'est-ce que cela a à voir avec Noé et Genèse 6, Noé et l'histoire de l'arche? Que diable fait Peter? À mon avis, c'est probablement l'un des passages les plus troublants de tout le Nouveau Testament, en ce qui concerne la tentative de donner un sens à ce dont il s'agit et à la manière dont nous le comprenons. Maintenant, une partie de cela remonte à, ou peut-être influencer, une section du symbole des apôtres que nous citons assez fréquemment. Alors, citons cela ensemble. Ceci n'en est qu'une partie. Je crois en Jésus-Christ, qui a été crucifié, mort et enterré. Il est descendu aux enfers le troisième jour où il est ressuscité des morts. Et ce n'est évidemment qu'une partie du credo. mais la phrase sur laquelle je veux me concentrer est qu'il est descendu aux enfers. Or, ces trois autres descriptions du Christ sont clairement attestées dans le Nouveau Testament, que le Christ est mort et a été enterré, et évidemment qu'il est ressuscité des morts le troisième jour. Vous les trouvez tous ensemble dans une seule section dans 1 Corinthiens 15. Mais cette référence à Christ descendant aux enfers, l'un des endroits que nous obtenons apparemment, vient de 1 Pierre 3, 18 à 20. Cette référence au Christ allant vers les esprits en prison et leur prêchant semble être l'une des justifications de l'inclusion de cette déclaration dans le symbole des apôtres. Et de même, connaissant le symbole des apôtres, nous revenons souvent à 1 Pierre 3 et le lisons comme une description du Christ allant vers les esprits en prison, allant en enfer. Autrement dit, entre le moment où Jésus est mort sur la croix et a dit que c'était fini, entre ce moment et le moment où il est ressuscité, Jésus a dû descendre en enfer et prêcher quelque chose, peut-être une seconde chance de salut, quelque chose. Jésus offre-t-il une autre chance aux esprits en prison? Maintenant qu'il est finalement mort pour les péchés de l'humanité, est-il en train de dire, « Je l'ai fait, et voici une autre chance » Ou devons-nous comprendre cela d'une autre manière? Une partie du problème est que cela s'étend sur seulement deux ou trois versets. Le langage est très ambigu, dans un sens. Mais c'est typiquement ainsi que nous avons compris ces versets. Et encore une fois, 1 Pierre 3 se cache probablement derrière cette section en italique du symbole des apôtres selon laquelle Jésus est descendu aux enfers. Il y a quelques autres endroits dans le Nouveau Testament qui ont également été utilisés pour soutenir cela, mais c'est une des possibilités. Avez-vous levé la main? N'y a-t-il pas cette idée qu'il a placée entre le jugement de l'enfer et celui du ciel? Bien sûr, oui. Et vous avez ce lieu d'attente d'Hadès où les gens, jusqu'au moment où Jésus est mort sur la croix pour le péché de tout le monde, il n'y avait pas de salut. Il ne restait plus qu'à attendre ce jour-là. Il y a des références à Hadès. Je pense que cela pourrait être dans l'Ancien Testament. C'est quelque chose de nouveau où il fait référence à la façon dont Abraham et Isaac sont tout vivants, mais il semble que la façon dont ils y font référence dans le langage indique qu'ils sont au paradis à ce moment-là et que Jésus-Christ doit réellement les sortir de cette attente. Place au ciel. Et donc cela semble être ce à quoi on fait référence en prêchant l'évangile de son salut et de ceux qui croient en lui, dirons-nous. Bien sûr. Oui, tu as tout à fait raison. Quelqu'un suggère que l'enfer, le lieu final du jugement, se situe avant que les gens ne soient en quelque sorte dans ce réservoir intermédiaire et attendent la mort et la résurrection du Christ. Et maintenant, c'est arrivé. Maintenant, Christ peut aller prêcher à ces personnes et elles peuvent soit le rejeter, soit l'accepter. C'est une autre façon de comprendre les choses, n'est-ce pas? Une autre façon de comprendre est souvent que quelqu'un a suggéré que Jésus, que Christ prêchait en fait à travers Noé, que lorsque Noé prêchait aux gens autour de lui que maintenant ils sont des esprits, qu'ils sont morts et qu'ils sont des esprits, mais que lorsqu'ils étaient en vie, quelqu'un suggère que ce que Pierre dit, c'est que Christ prêchait en fait à travers Noé à ces gens qui sont maintenant des esprits. Et donc, cela n'offre pas une seconde chance de salut, mais cela enregistre simplement qu'historiquement, lorsque Noé construisait l'arche et était ridiculisé comme il l'était en réalité, Christ prêchait ou parlait à travers lui à ces personnes qui sont maintenant mortes et qui sont en train de mourir. En fait, les esprits, est une autre possibilité. Je veux suggérer quelque chose de très différent en posant une série de questions que vous voyez décrites dans votre programme à propos de ce texte. Tout d'abord, quand est-ce arrivé? Quand le Christ a-t-il fait cela? Remarquez que le verset 18 dit, « Car Christ aussi a souffert une fois pour toutes pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais rendu vivant dans l'esprit, ce qui fait référence à la résurrection de Jésus. » Alors le verset 19 dit, « Dans quoi? Ce qui renvoie, je pense, à sa résurrection. » Ainsi, on pourrait dire que Jésus a été mis à mort dans la chair, mais rendu vivant dans l'esprit. C'est là qu'il a grandi. À quelle époque, ou dans quel état, c'est-à-dire à l'époque où il a été élevé, à ce moment-là, il est allé voir les esprits en prison. Donc, je suppose que tout ce qui se passe dans ce texte, c'est que cela s'est produit au moment de la résurrection de Jésus. quand Jésus ressuscite, à la suite de sa résurrection, au moment où il ressuscite des morts, c'est à ce moment-là qu'il le proclame. Donc, à mon avis, cela ne fait pas référence à Jésus entre sa mort le vendredi saint et sa résurrection le dimanche. Entre-temps, Jésus est allé vers ses esprits. Je ne suis pas convaincu que ce soit de cela qu'il s'agit. Je pense que c'est quelque chose qui se produit à sa résurrection. Et encore une fois, je pense que si vous lisez les traductions anglaises, elles feront des choses différentes avec les versets entre 18 et 19. Mais celui que je viens de lire me plaît. Il dit, « Il a été mis à mort par la chair, mais rendu vivant dans l'esprit, c'est sa résurrection, dans laquelle, cela fait référence au fait d'être rendu à la vie dans l'esprit, dans lequel, c'est dans quel état, à quel le moment où il est ressuscité, c'est à ce moment-là qu'il est allé faire cette proclamation aux esprits en prison. » Donc, je pense que cela résout au moins une partie de notre problème. Quoi qu'il en soit, partout où Christ va, quoi qu'il prêche, quels que soient ses esprits, Christ le fait, pas quand Moïse, bien sûr pas Moïse, ni Noé. Pas quand Noah était en vie. Il ne prêche pas à travers Noé. Il ne prêche pas entre sa mort et sa résurrection. Quoi qu'il fasse, il le fait après avoir été ressuscité des morts. Eh bien, ce n'est pas positif. Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'il était probablement dans le Colorado, profitant des montagnes. Non, il l'était, oui, je veux dire, je ne sais pas si je veux aborder ce sujet. Chacun d'entre vous doit faire face à ce qui s'est passé entre la mort du Christ et la résurrection du Christ. Je suppose qu'il était en présence du Père et qu'il est monté au ciel, mais encore une fois, son corps physique de résurrection n'avait pas encore eu lieu, sa résurrection physique comme signe de l'inauguration de la nouvelle création n'avait pas encore eu lieu. Donc, je suppose qu'il était en présence du Père Céleste. Et je pense qu'il y a de bonnes preuves de cela dans tout le Nouveau Testament. Oui. Mais oui, je pense, encore une fois, qu'une partie de ce langage est de type Ancien Testament et fait clairement référence à la résurrection. Mais c'est une très bonne question. Alors, où est passé le Christ? Alors, s'il a fait cela lorsqu'il a été élevé, où va le Christ? Encore une fois, le texte ne nous le dit pas vraiment. Cela ne nous dit pas que Christ est descendu quelque part, même si cela pourrait l'être. Cela ne nous dit pas qu'il est monté. Cela ne nous dit pas où ses esprits étaient en prison. Le texte ne le dit tout simplement pas. Mais peut-être devrions-nous alors nous poser la question, s'agit-il nécessairement d'un lieu précis? Pierre pense qu'il a un emplacement géographique spécifique vers le bas ou vers le haut. Une chose intéressante, si vous revenez aux Éphésiens, si vous revenez au livre des Éphésiens, qu'avons-nous dit le plus probablement? J'avance un peu en quelque sorte. Mais dans Éphésiens, où se trouvaient les esprits, les dirigeants et les autorités? Nous avons dit qu'il s'agissait de puissances maléfiques et de mauvais esprits. Où les trouve-t-on dans les Éphésiens? Derrière les royaumes de la terre, Paul les situe également dans les royaumes célestes. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de voir Jésus proclamer ou confronter ses esprits, quels qu'ils soient, et prêcher tout ce qu'il fait dans les lieux célestes, pas nécessairement en enfer ou dans un autre compartiment quelque part, bien que ce soit une possibilité, mais peut-être que c'est similaire à ce que Paul dit dans Éphésiens. Ses esprits sont dans les royaumes célestes et contrôlent les royaumes célestes. Et même là, nous avons vu que Jésus était assis bien au-dessus de tous les dirigeants et autorités dans les lieux célestes. Mais à part ça, encore une fois, le texte ne nous le dit pas. Il ne dit pas spécifiquement que Jésus est descendu quelque part ou en montant, ni où il est allé. Deuxièmement, qui était-il? Qui étaient ses esprits? À mon avis, je pense que Peter s'appuie sur une tradition qui lui est venue pour interpréter cela. Maintenant, vous devez revenir à votre Ancien Testament. Si vous vous souvenez du chapitre 6 de Genèse, une partie de ce qui a précipité le déluge était cette histoire des fils de Dieu descendant et ayant des relations avec les filles des hommes. Il est intéressant de noter que dans la littérature juive, ces fils de Dieu sont presque unanimement décrits comme des êtres spirituels ou angéliques qui sont ensuite jetés en prison et attendent leur jugement. J'y reviendrai dans un instant, mais accrochez-vous à cela. les esprits qui étaient en prison en attendant le jugement du chapitre 6 de Genèse. J'y reviendrai dans un instant. Finalement, qu'est-ce que Jésus a prêché? Très probablement, Jésus. Encore une fois, le mot que la plupart de vos traductions anglaises traduisent prêcher ne signifie pas nécessairement qu'il a prêché l'évangile, bien que cela puisse impliquer cela. Mais c'est un mot très général pour simplement proclamer un message. Cela pourrait donc être un message de salut, ou cela pourrait également être un message de jugement. Que Jésus est pauvre. Ou cela pourrait simplement être un message de victoire de Jésus. Jésus, par sa mort et sa résurrection, a désormais remporté la victoire sur le péché, sur la mort et sur toutes les puissances du mal. Maintenant, laissez-moi revenir en arrière et laissez-moi vous montrer un autre texte. J'ai dit Genèse chapitre 6, 1 à 6, l'histoire. Encore une fois, juste avant l'histoire de Noé et du déluge, vous avez cette histoire intéressante de ces fils de Dieu qui descendent et se mêlent et entretiennent des relations avec les filles. Des hommes. Encore une fois, la littérature juive en dehors de l'Ancien Testament et même certaines littératures chrétiennes traduisaient fréquemment les fils de Dieu par des êtres angéliques spirituels ou des êtres démoniaques. Ceci est tiré d'un livre intitulé Un Inak que je suis sûr que la plupart d'entre vous ont lu récemment. Mais vous pouvez même rechercher Un Inak sur Google et en trouver une traduction anglaise. Mais au chapitre 6 de Un Inak décrit clairement Genèse 6, le déluge. Et voici ce qu'il dit. En ces jours où les enfants des hommes se multipliaient, il arrivait que naissaient de belles filles, et les anges, enfants du ciel, les voyaient et les désiraient. Donc, Un Inak 6, et il y a d'autres textes dans Un Inak qui comprennent ces fils de Dieu de Genèse 6 comme des êtres angéliques. Un autre, chapitre 21, dans le même livre, Un Inak. Encore une fois, ce n'est pas dans votre Ancien ou Nouveau Testament. C'était un livre qui n'entrait pas dans le canon de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Encore une fois, Inak décrit encore, il décrit le déluge, l'événement de Genèse 6. Elles font partie des étoiles du ciel qui transgressent les commandements du Seigneur et sont liées dans cet endroit jusqu'à la fin des 10 millions d'années, selon le nombre de leurs péchés. Cet endroit est la prison des anges. Donc, vous avez cette conception de ces anges qui désobéissent à Dieu, et maintenant ils sont confinés en prison, en attendant le jugement final, basé sur Genèse chapitre 6. Donc, ces anges qui ont transgressé sont les fils de Dieu de Genèse chapitre 6. 2 Pierre 2, le livre dont nous parlerons ensuite. Car si Dieu n'a pas épargné les anges lorsqu'ils ont péché, mais il les a envoyés en enfer, les mettant dans les chaînes des ténèbres pour les retenir jusqu'au jour du jugement. Encore une fois, lorsque vous regardez l'ensemble du chapitre 2 de 1 Pierre, cela correspond très bien à une description du chapitre 6 de Genèse. Encore une fois, l'idée des anges qui pêchent, transgressent les commandements de Dieu, et maintenant ils sont enchaînés, attendant le moment du jugement. Un autre texte du Nouveau Testament et il y en a d'autres que nous pourrions mentionner, mais je regarde simplement ceux qui sont les plus clairs. Jude chapitre 6, un petit livre avant l'Apocalypse. Et les anges qui n'ont pas conservé leur position d'autorité, mais ont abandonné leur propre demeure, ces anges que Dieu a gardés dans les ténèbres, liés dans des chaînes éternelles pour le jugement. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous semblez avoir cette tradition ou cette histoire basée sur Genèse 6, selon laquelle les fils de Dieu de Genèse 6 étaient des êtres angéliques qui ont transgressé leurs limites et leurs commandements, et ont donc péché, et ont donc été enchaînés, métaphoriquement. Ou bien, en prison, en attendant le jour du jugement. Maintenant, je pense que Pierre utilise cette histoire et dit que ce jugement est finalement arrivé dans la personne de Jésus-Christ. Ces anges ou ces esprits du chapitre 6 de Genèse ont transgressé et ont été enchaînés pour le jugement, maintenant que le jugement a eu lieu. Maintenant, Jésus est allé vers ces êtres angéliques, ces êtres démoniaques, et a proclamé un message de jugement et de victoire sur eux. Maintenant, que Peter pense que tout cela est littéral, ou peut-être, dans mon esprit, je pense que Peter emprunte peut-être simplement une histoire commune, parce que c'était populaire et ses lecteurs l'auraient compris parce que cette idée se retrouve dans un certain nombre d'endroits différents. Et différents types de littérature. Je me demande si cela n'aurait pas été une histoire populaire, et maintenant Pierre l'utilise, mais fondamentalement, je pense que c'est la manière de Pierre de dire la même chose que Paul a fait dans Éphésiens 1, que Jésus, avec sa résurrection, a maintenant a été exalté bien au-dessus des dirigeants et des autorités dans les cieux, et maintenant ils sont son marchepied, c'est un signe qu'il est victorieux et qu'il les a vaincus. Je pense que c'est juste la façon dont Peter dit la même chose. Donc, je ne pense pas que nous ayons besoin de nous demander où est allé Pierre, ou où est allé Jésus, où étaient ces esprits en prison, sont-ce les seuls esprits, qu'en est-il des autres esprits? Cela ne l'intéresse pas, il utilise simplement une histoire courante que ses lecteurs connaissaient bien pour réitérer qu'à travers sa mort et sa résurrection, Jésus a remporté la victoire sur les puissances du mal et que maintenant, à travers sa mort et sa résurrection, il proclame un message de jugement et de victoire. Très bien, des questions à ce sujet. C'est un peu comme ça que je lis le texte, et je pense que comprendre une partie du contexte peut aider à clarifier un passage plutôt délicat. Encore une fois, lorsque nous comprenons ce que fait Pierre dans cette histoire, ce contexte, l'histoire à laquelle il fait référence, alors nous n'avons pas à nous soucier de savoir où est allé Jésus et a-t-il proclamé une seconde chance de salut, qui étaient ses esprits, où était-il? Encore une fois, je pense que cette histoire est en quelque sorte paradigmatique pour les êtres angéliques maléfiques qui sont maintenant emprisonnés, attendant leur jour de jugement, et maintenant Pierre est convaincu que ce jugement est maintenant arrivé à travers la personne de Jésus-Christ. Maintenant, il y a une autre question dans vos notes, et c'est pourquoi Peter raconte-t-il cette histoire? Je veux dire, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Vous remarquerez que Pierre continue, il commence avec Jésus-Christ souffrant, comme nous l'avons fait, mais Pierre fait deux autres choses. Premièrement, Pierre démontrera cela de la même manière, remarquez le verset 20, dit-il, qui dans le passé n'a pas obéi lorsque Dieu a attendu patiemment au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle quelques-uns, c'est-à-dire 8 personnes, ont été sauvés grâce à l'eau. En d'autres termes, ce qu'il fait, c'est que Peter établit une comparaison. De la même manière que Noé et sa famille étaient une minorité dans une société hostile, Dieu les a secourus et les a sauvés, de la même manière, son Église, bien qu'elle semble être une minorité dans cet environnement hostile de l'Empire romain, est-ils peuvent être assurés que Dieu les sauvera également. Ainsi, ce thème de la similitude entre Noé et sa famille étant une petite minorité au milieu d'un environnement hostile se retrouve désormais chez les lecteurs de Peter. Eux aussi semblent être une minorité dans ce contexte et cet environnement hostile. Pourtant, à travers Jésus-Christ, Dieu a déjà vaincu les puissances du mal, alors qu'ont-ils à craindre? Qu'est-ce que les lecteurs, même s'ils peuvent subir des persécutions, qu'ont-ils à craindre? Jésus-Christ a déjà remporté la victoire sur les puissances hostiles du mal. Ce qui les menace réellement, ce ne sont pas les dirigeants et les autorités au niveau humain à Rome, mais la véritable menace qui se cache derrière cela, c'est-à-dire les dirigeants et les autorités des royaumes célestes. Comme le dit Paul, c'est là la véritable menace, et Christ les a déjà vaincus par sa mort et sa résurrection. Alors, qu'ont à craindre ses lecteurs? Au lieu de cela, ils devraient embrasser Christ de tout cœur dans la foi et dans leur témoignage pour Jésus-Christ, même au milieu de la souffrance, car désormais ils n'ont absolument plus rien à craindre. Christ a déjà souffert pour eux et, ce faisant, non seulement il leur a fourni un modèle, mais il a en fait vaincu les puissances du mal. Ils n'ont donc rien à craindre et doivent donc embrasser Christ de tout cœur, en témoignage et en adoptant une conduite appropriée. Tout comme Noah et sa famille, même s'ils constituaient eux aussi une minorité dans un environnement hostile. Très bien, d'autres questions à ce sujet? D'accord. C'est en fait un bon point de rupture, je pense. Vendredi prochain, nous examinerons ensemble deux autres livres, en fait deux Pierre et Jude, que nous verrons étroitement ensemble. C'était le Dr Dave Mathewson dans la conférence numéro 31 sur l'histoire et la littérature du Nouveau Testament sur une pierre. Il s'agit du Dr Dave Mathewson dans Histoire et littérature du Nouveau Testament, conférence 31 sur une pierre.